Radio Prague, les informations.
Encore une fuite d'eau radioactive dans la centrale de Temelin, remise de la cathédrale Saint-Guy au château de Prague en possession de l'État. Les opinions de la population tchèque sur les églises. Une nouvelle fuite d'eau radioactive a été signalée par le porte-parole de la centrale nucléaire de Temelin en Bohême du Sud. L'incident s'est produit lors d'un test dans le dispositif de protection du réacteur. Selon le porte-parole, la santé des employés et l'environnement n'ont pas souffert par cette fuite. Il s'agit du deuxième incident de ce genre qui s'est produit dans l'intervalle d'une semaine. Les négociations sur la remise de la cathédrale Saint-Guy au château de Prague en possession de l'État se poursuivent entre le bureau d'administration du château de Prague et l'Église catholique tchèque. En février dernier, la Cour suprême avait invalidé le verdict précédent ayant mis la cathédrale en possession de l'Église. En ce moment, les deux parties préparent les protocoles sur la remise de la cathédrale. Selon un sondage de l'agence STEM, la société tchèque est divisée dans la question de la restitution des biens de l'Église ayant été confisqués par l'État. 12% des participants au sondage sont résolument pour la restitution, 33% plutôt pour. D'autre part, 23% sont résolument contre la restitution et 32% plutôt contre. Le salaire mensuel moyen en République tchèque a atteint l'année dernière 20 211 couronnes, quelque 722 euros, ce qui est de 1 226 couronnes, 44 euros de plus qu'en 2005. Il s'agit d'une augmentation de 6,5%. Le salaire réel a augmenté de 3,9%. C'est le film allemand sur la mondialisation « Vaincu à vainqueur » qui a obtenu le grand prix du Festival des films documentaires sur les droits de l'homme « Jedenswert One World ». Ayant eu lieu ces derniers jours à Prague, le prix de la meilleure réalisation a été décerné au film israélien qui jette un regard optimiste sur la vieillesse, le club de cimetière, et une mention honorable a été attribuée au documentaire danois sur le courage féminin « Les ennemis du bonheur ». Ce mercredi, les records de température sont tombés à plusieurs endroits de République tchèque. Par exemple, à Ostrava Poruba, ville de Moravie du Nord, la température est montée à 18,9 degrés, ce qui a été de 3,3 degrés de plus que le record atteint en 1989. Selon les météorologues, de pareilles fluctuations de température sont cependant assez courantes en cette saison. On ne peut pas exclure le retour de l'hiver. Météo. Ce jeudi, fête de toutes les Gabriella, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie sera nuageux avec quelques faibles pluies par endroit. Les températures diurnes se situeront entre 11 à 15 degrés, mais sur l'est du pays, elles peuvent monter encore jusqu'à 18 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à Radio Prague et au rendez-vous de l'actualité en République tchèque. Au programme aujourd'hui notamment la révocation des directeurs de trois grands hôpitaux par le ministre de la Santé. Nous verrons quelles sont les raisons de ce coup de balai. La suite du programme sera ensuite très culturelle avec tout d'abord une exposition d'objets rares des trésors de la mère des églises tchèques, la cathédrale Saint-Guy. Puis nous présenterons également le nouveau film de Jan Svirak, dont la sortie très attendue était programmée mercredi soir. Enfin, nous terminerons avec du sport et un nouveau titre de champion du monde pour un skieur tchèque, cette fois en ski cross. Toute l'équipe de la rédaction française vous souhaite de passer d'agréables moments à l'écoute de nos programmes. Le ministre de la Santé, Tomáš Julínek, vient de révoquer les directeurs de trois grands hôpitaux de faculté, deux à Prague et un à Olomouc, dans l'est de la Tchéquie. Quelles sont les raisons de ces révocations et les réactions? Une question à laquelle nous répond Alain Slivinski.
Coup de balai et mise en place des connaissances du ministre de la Santé, comme l'affirment les critiques, ou bien réalité économique de trois grands hôpitaux tchèques. Les hôpitaux pragois, Tomajerova Nemocnice et Nemocnice Kralovské Vinohrady, tout comme celui d'Olomouc, ce sont des hôpitaux de faculté, donc de prestige, liés directement à la recherche et à la formation des médecins et des spécialistes en médecine. le ministre de la Santé a décidé d'en révoquer les directeurs, car les trois établissements seraient énormément endettés depuis longtemps. Les directeurs concernés s'en défendent et crient à l'injustice. D'après eux, le bilan économique des établissements qu'ils dirigeaient était positif l'année dernière. Thomas Schulinek ne les contredit pas, mais explique pourquoi il a pris sa décision. Ce sont des établissements endettés à long terme, surtout les hôpitaux d'Olomouc et de Vinohrady. J'ai mentionné les près de 2 milliards de couronnes versées par l'État qui leur permettent de se retrouver avec un bilan positif. Nous ne voulons plus les subventionner ainsi. Force est de constater et de donner raison au ministre, car sans le règlement des dettes de ces hôpitaux par le Trésor public, il ne pourrait afficher ce bilan positif. D'un autre côté, pourquoi les directeurs des trois autres hôpitaux les plus endettés n'ont-ils pas été révoqués? Réponse de Thomas Schulinek, les directeurs n'occupent leur poste que depuis peu et nous voulons leur donner une chance. L'ancien ministre social-démocrate de la Santé, David Rath, considère ces révocations comme une épuration politique. Thomas Schulinek réfute une telle interprétation, car le directeur de l'hôpital Thomayer, Peter Mali, est membre du même parti politique que le ministre, le Parti civique-démocrate. Par contre, il ne peut nier qu'il place ses pions à des postes importants du secteur de la santé, au conseil d'administration de la Compagnie Générale d'Assurance Maladie, VZP, et de 8 autres compagnies d'assurance maladie. Il n'est pas satisfait non plus du travail du directeur de la VZP, mais celui-ci est révoqué et nommé par la Chambre des députés. Un fait est certain, tous les ministres, après leur entrée en fonction, s'entourent de personnes sur lesquelles ils peuvent compter. Une réalité reconnue même par les critiques de Thomas Schulinek.
Une exposition présentant les bijoux les plus précieux provenant du trésor de la cathédrale Saint-Guy et d'autres œuvres créées autour de l'an 1500 vient d'être inaugurée dans les locaux de l'ancienne écurie impériale au château de Prague. Jaroslava Gisubelova a invité au micro la commissaire de l'exposition.
L'exposition est un projet unique, dans une certaine mesure expérimental, car elle n'est pas consacrée à un seul artiste ou à un seul courant, dit la commissaire Ivana Kizurova. Sur le fond d'un grand personnage médiéval, Bohuslav Hasyštejnský, humaniste et poète, auteur de la plus grande œuvre de poésie en latin en son temps en Europe, elle dessine l'image de la fin du XVe siècle, qui était celle du règne de la dynastie polonaise des Jagellons sur le trône de Bohême, dont Bohuslav Hasyštejnský, comte de Lobkowicz, est un proche collaborateur. L'exposition présente des objets liés directement ou indirectement à ces deux hommes. Tout d'abord, une bibliothèque comptant plus de 620 volumes que Bohuslav Hasyštejnský avait réunis au château de Hasyštejn, au nord de la Bohême. Puis ce sont des objets rares provenant des trésors de la cathédrale Saint-Guy.
Zácné relikviářové bysty z doby kolem roku 1500, které metropolitní kapitole věnoval přímo král Vladislav.
De précieux bustes reliquaires offerts au chapitre métropolitain de la cathédrale Saint-Guy vers 1500 par le roi Vladislas de Jagellon. Ensuite, la fameuse gravure à l'eau forte d'Albrecht Dürer, le grand canon, qui n'est pratiquement jamais exposé du fait de sa fragilité et qui évoque le problème majeur de l'époque d'alors, les invasions turques. L'exposition nous familiarise ensuite avec les tableaux de peintres liés au château de Prague, Jos van Cleef ou Lorenz Costa, tout à fait méconnus du public puisque ces tableaux étaient cachés au château de Valtice, l'un des peintres les plus remarquables de la Renaissance contemporaine de Botticelli. En effet, l'exposition ne se limite pas au point culminant du Moyen-Âge en Europe vers l'an 1500 et l'enchaîne avec les débuts de la Renaissance, ce qui lui donne une autre dimension, tout comme d'ailleurs son sous-titre « Entretien avec la mort », une réflexion sur des œuvres qui dépassent leur créateur et leur temps.
Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu.
Le jeudi 8 mars sort en salle l'un des films les plus attendus de cette année, la comédie Vratné Larvé, Les bouteilles consignées, qui est la quatrième et peut-être dernière collaboration du réalisateur Jan Svierak avec son père Zdeněk, scénariste et acteur. Plus de détails avec Magda Rozinkova.
Après la comédie familiale École communale, tournée en 1991, Kolia, oscarisé 6 ans plus tard, et le film de guerre au casting international Dark Blue World, les Svierak arrivent donc de nouveau avec une comédie dramatique. Sa genèse, particulièrement longue et difficile, a presque provoqué une rupture entre le père et le fils. Svierak Junior n'a accepté que la 5e version du scénario, dans laquelle son père met en scène son alter ego, en quelque sorte, le professeur Tkalon, 65 ans, qui quitte l'école au bord de la crise de nerfs. Il trouve un petit boulot dans un supermarché. On le charge de la récupération des bouteilles consignées. Bavard et soucieux des autres, l'ancien prof finit par connaître tous les clients et tout le personnel du magasin et commence, qu'il le veuille ou pas, à influencer leur vie. Écoutez Zdeněk Svierak, 70 ans, auteur du scénario et acteur principal du film.
Já především mám vždycky za úkol vracet lahve, čili já jsem tam pořád nakukoval a vlastně inspirací k tomu nápadu prvotnímu.
Dans notre famille, c'est moi qui rends aux commerçants les bouteilles consignées. Celui qui m'a inspiré, c'était un gars qui travaille justement à la réception des bouteilles dans un petit supermarché à Prague Petchini où j'habite. C'était quelqu'un de très renfermé sur lui-même, il ne disait jamais rien. Ça me rendait presque furieux. Je me disais, oh là, si seulement c'était quelqu'un de gentil, ce serait tellement plus agréable de passer. Et je m'imaginais moi-même à sa place. Voilà comment j'ai eu l'idée de parler de cette petite fenêtre, qui peut être un moyen de communication et qui en fait un vestige des magasins d'époque où les gens se parlaient encore.
Jan Svierak filme avec tendresse et un humour corrosif les dialogues entre le professeur et vendeur Tkalon et sa femme, incarnée par la charmante Daniela Kolářová. La crise sentimentale de ce couple de retraités, très crédible à l'écran, est le fil rouge du film. Pourquoi, en fait, Jan Svierak a-t-il voulu traiter de la vieillesse, sujet généralement évité par les cinéastes de sa génération? On l'écoute.
Jak stárnou a říkám, závidím tátovi, že má divadlo, že každý večer ho někde potřebuje.
Je vois mes parents vieillir. J'envie à mon père le fait de jouer tous les soirs au théâtre, d'être aussi sollicité. Je me demande comment il serait s'il n'avait pas cette activité, s'il serait en forme, s'il ferait du ski de fond et du vélo. Je me demande aussi ce qui m'attend, moi. La quarantaine passée, je vois ce qui est au bout du chemin. Dans mes pensées, la vie n'est plus interminable. À travers ce film, j'ai imaginé ma propre vieillesse. Voilà pourquoi il était important pour moi.
Takže pro mě ten film byl důležitý v tom, že jsem si skrz něj představil svoje stáří.
Stáru ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru, třeba, že jsem dosti sečtělý, sečtělý. Až mi tváře zcela zblednou, dal bych si ho ještě jednou, třeba s vámi chcete-li. Třeba s vámi, chcete-li. Už dlouho šlapu po světě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním. Ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru. Třeba, že jsem dosti sečtělý, sečtělý. Až mi tváře zcela zblednou, dal bych si ho ještě jednou, třeba s vámi. Třeba s vámi chcete-li, třeba s vámi, milé dámy, chcete-li.
Si 2007 était une année olympique, les Tchèques auraient de quoi être particulièrement fiers de leurs skieurs. Après les victoires de Šárka Záhrobská dans le slalom des championnats du monde de ski alpin et de Kateřina Neumanová dans le 10 km style libre des mondiaux de ski nordique, c'est en effet cette fois Tomáš Kraus qui a remporté, mardi, la médaille d'or en ski cross aux championnats du monde de ski acrobatique. Discipline décoiffante et ultra spectaculaire qui fait dévaler 4 skieurs sur une piste constituée de virages, de bosses et autres obstacles, le ski cross était ajouté en novembre dernier au programme officiel des prochains Jeux olympiques d'hiver qui seront organisés à Vancouver en 2010. Une bonne nouvelle pour les Tchèques, puisqu'un de leurs représentants, Tomáš Kraus, qui porte fort bien son nom, a remporté en 2005 et 2006 le classement général de la Coupe du Monde d'une discipline comparable sur le principe aux courses de motocross. Mieux encore, l'année dernière, le Tchèque avait même enlevé le globe de cristal, récompensant le vainqueur de la Coupe du Monde de ski acrobatique, toutes disciplines confondues. Cette année, Tomáš Kraus a été un peu plus malheureux puisqu'il n'a terminé que deuxième à 2 petits points du vainqueur de la Coupe du Monde de ski cross. Une légère baisse de régime qui ne l'a cependant pas empêché de conserver son titre de champion du monde acquis pour la première fois en 2005 à Ruka en Finlande. Cette fois à Madono di Campiglio en Italie, théâtre de ces mondiaux 2007, initialement prévu en janvier, mais remis à cause du manque de neige, Tomáš Kraus a devancé en finale un compatriote, le tchéco-canadien Stanley Heyer, le français Enak Gavagio montant sur la 3e marche du podium. Né au Canada, pays qu'il a longtemps représenté en ski alpin, Stanley Heyer défend désormais les couleurs tchèques en ski cross. Et à la fin de la course, bien que devancé par Tomáš Kraus, il ne cachait pas sa satisfaction d'avoir vu 2 Tchèques prendre les 2 premières places.
C'est un peu un miracle que nous ayons terminé aux 2 premières places. Cela n'arrive pas souvent, même si chez les filles, 2 Françaises sont également arrivées en tête. Bien sûr, j'aurais préféré doubler Tomáš et finir premier. Il ne m'a pas manqué grand-chose. Sur la fin, je suis même revenu sur ses talons. Malheureusement, je suis allé trop loin lors du dernier saut et il ne m'était plus possible de le rattraper. D'un autre côté, je ne m'attendais pas à une telle performance et une médaille d'argent au championnat du monde, ce n'est quand même pas si mal.
Reste que s'ils sont bien les leaders de la discipline actuellement, Tomáš Kraus et Stanley Heyer sont tous les 2 âgés de 33 ans. Rien qui ne promette donc qu'ils soient toujours aussi dominateurs dans 3 ans aux Jeux Olympiques de Vancouver. Voilà, c'est la fin de ces faits et événements. Merci de votre attention. Restez encore un instant en notre compagnie. Tout de suite, la suite avec la rubrique historique.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Merci d'être avec nous à l'écoute de cette page d'histoire. Nous vous proposons un entretien avec Joseph Davidovits, scientifique français de renommée internationale, qui a dévoilé le secret des pyramides en formulant sa propre théorie sur leur construction à l'aide de pierres artificielles et qui est lui-même l'auteur de la découverte des géopolymères. Il y a 2 ans, le professeur Davidovits est venu à Prague pour expliquer l'utilisation de son invention dans la restauration de monuments historiques. Ces derniers jours, on a eu l'honneur de l'accueillir à nouveau dans la capitale tchèque, cette fois à l'occasion de la signature de son nouveau livre, L'Égypte, le secret du temple funéraire. La Bible avait raison. Il a bien voulu dévoiler ses mystères à Radio Prague.
Ce livre est la suite du premier, c'est normal. Simplement, il se passe plus tard, 1400 ans après la construction des pyramides. Les pyramides ont été construites, les grandes pyramides, selon la technique de la pierre agglomérée. Et ensuite, les Égyptiens ont abandonné cette technologie pour construire des tas de pierres en pierre taillée, pas très bien. Donc, pendant plusieurs centaines d'années, donc 1400 ans, cette technologie faisait partie des choses qui étaient secrètes, jusqu'à ce que Amenophis, fils de Apou, dont on parle dans ce livre, ait redécouvert et amélioré la science de construction, pas de construction, mais la science qui est à la base de la fabrication de pierres artificielles. Amenophis, fils de Hapou, est le plus grand savant de l'Égypte. Amenophis, fils de Hapou, a utilisé cette science et puis il a été vénéré pendant plus de 1500 ans en Égypte. C'est une énorme personnalité égyptienne qui fait partie de l'histoire de l'Égypte et pourtant on n'en parle pas. Or, j'ai découvert qu'Amenophis, fils de Hapou, son histoire était celle de l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, dans la Bible. C'est-à-dire que l'on va trouver dans le texte de la Bible l'histoire d'Amenophis, fils de Hapou, écrite en fonction des découvertes archéologiques que nous avons maintenant. On a donc trouvé un personnage historique qui correspond à un important personnage de la Bible. Et c'est pour cela que ce livre s'appelle « Égypte, la Bible avait raison ».
Même si le professeur Davidovits en avait déjà parlé lors de la présentation de son premier livre, La nouvelle histoire des pyramides, nous lui avons demandé combien de temps a-t-il travaillé sur les géopolymères, qu'est-ce que les géopolymères et comment cela se fait que les instituts de recherche tchèques soient intéressés par son travail et souhaitent établir une coopération.
J'ai inventé les géopolymères en 1979. Mais j'ai commencé en 1972, donc cela fait déjà 33 ans. À cette époque, je ne savais pas qu'il y avait d'autres collègues scientifiques qui travaillaient sur des sujets à peu près identiques parce qu'il y avait le rideau de fer. J'ai rencontré pour la première fois des scientifiques tchèques à un congrès que nous avions eu à Kiev en 1994. C'est-à-dire plus de 25 ans après avoir commencé. Donc, nous avons en République tchèque des scientifiques qui ont travaillé déjà depuis plusieurs dizaines d'années d'une façon différente. Mais ils ont une certaine connaissance qui peut maintenant être utilisée très rapidement dans le développement des géopolymères. Seulement, il faut harmoniser les deux expérience. Et pour cela, nous allons commencer à l'université Tomasz Batia de Slin un enseignement pour les étudiants. Ce sera un enseignement qui va s'adresser au monde entier parce qu'il y a une très grosse demande d'enseignement. Jusqu'à maintenant, les géopolymères ne se faisaient qu'au niveau du docteur, des études de doctorat. Là, il faut enseigner à l'université en dessous. Et donc, l'université Tomasz Batia de Slin sera la première université au monde à avoir un cours pour les étudiants sur les géopolymères. Jusqu'à présent, les géopolymères n'étaient pas enseignés. C'était les étudiants qui faisaient un doctorat qui les apprenaient. Ce n'est pas du tout la même chose.
Dernière question, dans quel domaine d'activité humaine la découverte des géopolymères peut être appliquée?
Ce n'est pas un produit, c'est une nouvelle classe de matériaux. C'est le contre-type des polymères organiques, des matières plastiques. Plastique qui est fait à partir du pétrole. Géopolymères qui sont faits à partir des roches. Et donc tout est ouvert. Oui, il n'y a pas de limite. Simplement, il faut travailler, faire de l'innovation. C'est tout.
وخليك ساهر
اذكر وما تجد روح اخوك السائر
اذكر وما Africa, Mar. With Muammar. With Muammar.
Adi salam, salam, ya ni.
Adi salam, salam, ya ni.
C'était le professeur Joseph Davidovits, chimiste et inventeur des géopolymères, une technologie déjà connue il y a plus de 4500 ans, l'invité de cette page d'histoire. Merci de votre attention et à la prochaine.
C'est ainsi que se referment les émissions en langue française de Radio Prague. Merci de votre attention et de votre fidélité et à très bientôt sur nos ondes.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 10 hours on 1.